Rousseau.
If any member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
L'émission La musique adoucit les mœurs est présente sur les ondes bruxelloises depuis 1979, ce qui fait un bail évidemment. Avec un message pacifiste et antimilitariste, cela se fait entre autres avec l'étude et le rappel des leçons du passé. C'est dans ce cadre que je vous propose l'émission spéciale d'aujourd'hui, consacrée à la commémoration de la Première Guerre mondiale, le devoir de mémoire, si on veut, et on s'intéresserait particulièrement à la participation à cette guerre très européenne, eh bien à la participation des colonies et des dépendances des différents antagonistes. Une manière également, mais souvent oubliée, d'évoquer la guerre de 14-18, une manière bien à nous aussi de commémorer la guerre et d'en rappeler les horreurs. Vous êtes donc à l'écoute de La musique adoucit les mœurs, une émission de Radio Air Libre. Alors, pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui et son sommaire, je vous ai choisi du jazz qui date presque de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est un enregistrement qui a été réalisé à Paris en 1919 avec un orchestre qui s'appelle Scrap Iron Jazz Band. Ils avaient été amenés dans leur bagage par l'armée des États-Unis lors de son entrée en guerre, et donc de nombreux groupes de musique, des fanfares militaires américaines étaient venus avec eux, et ces gens-là étaient déjà acquis à cette nouvelle musique, appelée la musique de sauvage par certains, créée officiellement en 1917. Je veux parler du jazz.
Thank you.
le quatrième, la vaillance même, contenant le meilleur des enfants de notre patrie, la France chérie, dont les défenseurs sont tous des gens de cœur.
Et dans la dernière, leur valeur guerrière, plus normal combat à cause du trépas, de la ronde infâme, qui s'en grand ordonne, pour l'État servir le pays des médires.
Fils de France et fils d'outre-mer, sous les plis du drapeau qui flotte dans les airs, la vaillance les mène au combat, ils ne partiront pas, car les droits sont là. De Tunis ou de Rabat, de la Brousse ou de Sousse, de la Corse ou de Paris, ce sont les gars du pays.
Fils de France et fils d'outre-mer, sous les plis du drapeau qui flotte dans les airs, la vaillance est le combat, ils ne passeront pas, car les droits sont là.
Pour nous lancer dans le vif du sujet, je vous ai choisi le premier livre des Préludes de Claude Debussy, interprété par le Royal Scottish National Orchestra sous la direction de Yun Margl. Et comme je suis un peu excité là, un peu pressé par le temps, disons, eh bien c'est ça qui explique qu'il y a des boutons qui ne démarrent pas au bon moment. Alors, quand on pense à la Première Guerre mondiale, on pense surtout, évidemment, à l'Allemagne, quelques-uns de ses alliés, l'Autriche, Hongrie, entre autres, et quelques autres. D'un côté, les Russes, les Anglais, les Français, les Belges. D'autre part, on oublie les Italiens, on oublie plein d'autres. En fait, 70 pays se sont retrouvés sur un champ de bataille mondial. Et... on s'est battu, moins intensivement naturellement qu'en Europe, également aux antipodes, également aux autres coins du monde, et parfois dans des batailles particulièrement sanglantes qui resteront dans les mémoires. Je pense à l'affaire des Dardanelles, par exemple. Je pense aussi au corps expéditionnaire belge contre le Rwanda et l'Urundi, comme ça s'appelait à l'époque, où les Belges vont triompher de l'armée allemande. La force publique, oui, évidemment. 70 pays, donc, dans une guerre qui n'était peut-être pas nécessairement la leur, mais dans laquelle ces pays ont été entraînés, parfois malgré elles, ou parfois tout simplement parce que leur tuteur, le colonisateur, l'empereur de l'empire colonial était parti en guerre et exigeait de ses colonies une participation à l'effort de guerre. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera essentiellement basée sur un numéro hors série historique, enfin sur l'histoire, un numéro de Courrier International paru à l'été 2014. La brochure s'intitule 14-18, la guerre des autres. Et sur la couverture, il y a déjà une image très symbolique. Un soldat en uniforme kaki avec sur la tête un turban. On peut supposer qu'il vient des Indes. Et il tient à la main, juste devant lui, un casque allemand, un casque à pointe et probablement un casque d'officier allemand. On va voir quelles ont été les implications, les tenants et les aboutissants de cette participation des différents pays ou colonies à la Première Guerre mondiale, mais la brochure sur laquelle je me base, donc Courrier International, se termine avec quelques pages consacrées à des ancêtres, des rédacteurs du Courrier International. Ils ont quasiment tous des ancêtres qui ont participé d'une manière ou de l'autre à la Première Guerre mondiale et ils en témoignent en écrivant à la place de leur aïeul. Ainsi, Louis-Marie, qui vient de France, qui est engagé volontaire à 17 ans comme simple soldat, « Je fais les Dardanelles », écrit-il, « où je perds deux doigts ». Et ensuite, le chemin des dames. J'ai droit à une décoration pour ma bravoure, me disent-ils. J'en obtiens d'autres ensuite et aussi une promotion que je refuse. Pas question de devenir officier. Après la guerre, on me propose la Légion d'honneur, mais là encore, je refuse. C'est sur le champ de bataille qu'on doit être décoré. Dorothée Cotelevets d'Ukraine écrit ceci. « En 1914, mon cousin et moi, originaires d'un village perdu dans la steppe, sommes mobilisés dans l'armée du Tsar. Je suis aumônier militaire, ce qui ne m'empêche pas de me battre au point que je suis même décoré de la Croix de Saint-Georges, la plus haute distinction militaire russe. Mon courage me coûte cher car je suis tué avant même que 1914 prenne fin. Mon cousin, lui, a plus de chance. Artilleur, il déserte en 1917 pour rentrer au pays. Là, la guerre civile le rattrape et il est de nouveau mobilisé par l'armée blanche, mais il déserte encore. Il mourra de vieillesse. Le canon l'avait rendu sourd. » Hermann Langemacht d'Allemagne écrit « Je suis matelot, je sers à bord du croiseur léger Köln, un bâtiment de la marine impériale. Je fais partie de l'équipe responsable des chaudières. Le 28 août 1914, je devais partir en permission, mais j'ai échangé ma place avec un camarade. Mon croiseur est déployé lors de la bataille de Helgoland face à une puissante escadre de la Royal Navy. Touché par plusieurs salves, le Köln coule et m'entraîne avec lui à jamais. » Alors il y a aussi une photo de Matthias Edelhausen des Pays-Bas. « Lorsque cette photo est prise, écrit-il, enfin son petit-fils, j'ai 30 ans. La guerre fait rage en Europe depuis 2 ans déjà, mais chez nous, nous n'en avons qu'un écho lointain. Je suis étameur et Dieu merci, le travail ne manque pas, même si je commence à avoir des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Ma femme, Annie, attend notre deuxième enfant. Il aura à peine le temps de faire ma connaissance. Je vais être emporté par la fameuse grippe espagnole en 1919. Chacun des petits articles est orné d'une photo d'époque de l'aïeul dont on parle. Ainsi, Roland Lefebvre français. La photo le montre à l'hôpital avec un gros bandage autour de la tête et une infirmière qui se penche sur lui. En 1915, j'ai 15 ans, orphelin de mère, je vis chez mon oncle qui tient un bistrot. À la sortie d'Amblenie, sur la route de Coeuvres, dans l'Aisne, j'apporte des gourdes de vin aux soldats en deuxième ligne. Un obus tombe tout près et je reçois un scrapnel dans le cou. C'est grâce aux gourdes que je porte tout autour de moi que j'ai la vie sauve. Grâce aussi à un officier qui insiste pour qu'on m'amène, alors que tous les autres pensent que je suis mort car je baigne dans une mare de sang. Radovan Lukic de Serbie écrit « Ma famille raconte encore aujourd'hui que j'ai été un héros. Officier des gardes du roi Pierre Ier, je participe à la terrible retraite de notre armée dans les montagnes enneigées d'Albanie et du Monténégro. J'aurais même sauvé d'importants documents qui, traversant à la nage une rivière gelée, arrivé à Corfou avec les restes de notre armée, j'y vois pour la première fois de ma vie des citronniers, des orangers, et des oliviers qui me fascinent. Je rentrerai dans mon pays en 1918, en libérateur. » René Thiaville, lui, est allemand. « Je suis né allemand, écrit-il, à Zabern, aujourd'hui Saverne, en Alsace. En 1897, quand la guerre éclate, je suis appelé dans l'armée du Reich. Mais je n'ai aucune envie de me battre contre les Français. Je préfère me blesser à la jambe en la faisant passer sous une carriole. Envoyé à l'hôpital d'Elbing, dans l'est de l'Empire, j'y passe la guerre comme convalescent, en entretenant bien ma blessure, puis comme infirmier. C'est là qu'a été prise cette photo où l'on me voit à gauche, le bras en l'air. Je suis mort en 1970. » Jovan Kurovic, du Monténégro. « Je suis un simple soldat, mobilisé en 1914 dans la première armée monténégrine. En 1915, je suis capturé par l'armée de l'Empire austro-hongrois. Pour moi, c'en est fini les combats, je passerai le reste de la Grande Guerre dans un camp de prisonniers de guerre en Bohême. » Isaac du Liban écrit qu'en 1914, ma mère, Yousra, a déjà 7 enfants, dont moi. Nous sommes scolarisés dans une école construite par l'Empire russe pour ses protégés chrétiens grecs orthodoxes du Levant, qui s'accommodent tant bien que mal du joug ottoman. Habib, mon père, et moi-même sommes enrôlés de force dans l'armée du sultan. Mon père y laissera la vie. Quant à moi, par deux fois, je saute du train qui m'emmène combattre dans les Balkans, puis je prends un bateau direction l'Amérique latine, où je mourrai de ma belle mort en 1988. Alexandre Cerisier nous ramène en France. « J'ai 32 ans en 1914 et je suis agriculteur quand je suis mobilisé au sein du 64e régiment d'infanterie, recruté à Ancenis, aujourd'hui en Loire-Atlantique. Je laisse ma femme et 3 enfants derrière moi et je suis envoyé au front. Je tombe au combat le 25 septembre 1915 sur la Marne. Alors évidemment, au courrier international, il y a plus de Français que d'autres, mais il y a quand même un beau choix, hein. Romuald Berthelot, également français. « Quand la guerre éclate, j'ai 21 ans, je suis cavalier au sein du 9e régiment de cuirassiers. Dès le début du conflit, je décide de tenir un journal que j'illustre aussi, j'y consigne toutes mes impressions. La première fois que je vis un combat, les réactions de mes camarades et moi quand on croise des hindous, quand on apprend que la guerre s'étend ailleurs, au moins je m'en sortirai avec le sentiment du devoir accompli. » Et là, le petit texte est accompagné effectivement d'une reproduction d'un des dessins qu'avait fait Romuald Berthelot. « Philippe Redley est également français. Je suis téléphoniste, écrit-il, dans le 64e régiment d'artillerie de l'armée française. C'est moi qui transmets aux artilleurs, qui sont reliés par téléphone, les ordres de tir. J'ai 19 ans en 1918 quand a été prise cette photo et que j'ai été décoré de la Croix de guerre pour ma conduite exceptionnelle. Lors de la seconde bataille de la Marne, alors que c'est la débandade dans nos rangs, je réussis à dételer les 6 chevaux qui tiraient un canon de 75 et à transporter mes camarades blessés ainsi que des provisions vers nos lignes arrières. Et donc vous ne pouvez pas voir la photo et en même temps, ce ne sont pas les soldats eux-mêmes qui ont écrit ces petits textes, mais bien leur descendance travaillant comme journaliste ou collaborateur au Courrier international. Alors, comme je le disais en début d'émission, il y a évidemment dans cette guerre un certain nombre de grands, de pays auxquels on pense en premier lieu, et puis il y a les autres qu'on oublie parfois un petit peu. Alors, côté des grands, il y a la France, bien sûr, le Royaume-Uni, la Russie, de l'autre côté l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie, ou plus exactement ce qui reste de l'Empire ottoman, et puis l'Italie qui change de camp à un moment donné, après des batailles qui ont parfois été particulièrement sanglantes, on l'oublie souvent, dans les montagnes, dans les Alpes, dont témoignera par exemple Hemingway dans un de ses premiers récits, que je vous conseille d'ailleurs de lire, parce que c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus intéressant que de lire Le vieil homme et la mer. Alors, du côté des petits qui participent au conflit, parfois bien malgré eux, il y a bien sûr la Belgique, la Serbie également, la Bulgarie, la Roumanie, et d'une certaine manière les États-Unis, dans la mesure où, à l'époque, il y a très peu de soldats aux États-Unis. C'est un grand pays, mais assez sauvage encore, où on croise plutôt des cow-boys et des indiens que dans les campagnes que des soldats. Ce n'est qu'au moment où ils arriveront sur le front occidental en France en 1917, c'est-à-dire quasiment quand les carottes sont cuites, qu'on pourra vraiment parler du début du développement de l'armée des États-Unis. Autres pays impliqués, le Portugal, la Grèce, le Japon, la Chine, etc., etc. Alors, comme je vous le disais, on oublie souvent que, à l'époque, les grandes puissances avaient toutes des empires coloniaux assez importants. La France et le Royaume-Uni, par exemple, se partageaient quasiment à part égale l'Afrique. On pouvait aller du nord jusqu'au sud de l'Afrique en restant en terre britannique. Et si ce n'était pas le cas pour la France, il y avait quand même de gros morceaux qui lui appartenaient. Après la guerre, dans les accords que l'Allemagne sera obligée de signer, elle devra renoncer à certaines, non, à toutes ses colonies, et entre autres, on pense à la Namibie, à Samoa et des pays comme ça, le Cameroun également. Alors on a l'Empire français, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois également, l'Empire russe, parce que la Russie, ça s'étend quand même très loin, l'Empire britannique, enfin, et aussi l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, on connaît un petit peu mieux avec un certain nombre de grands succès au cinéma, et entre autres ce film de 1965, qui nous rappelle le rôle des Britanniques dans le partage des terres aujourd'hui, dont on voit toujours les résultantes aujourd'hui. Et il y avait ce fameux agent de liaison britannique qui s'appelait Lawrence, aussi surnommé Laurence d'Arabie.
Il fit son devoir jusqu'au bout, et dans un combat, il est mort là-bas, avec la Nouba. Oui, mais en mourant sur son cœur, il a pris sa belle croix d'honneur. Mamselle, c'est pour vous, c'était le seul bijou du pauvre Boudouba d'Abou.
Alors, Boudou Badabou, c'est une chanson exotique, évidemment, comme on appelait ça à l'époque, chantée ici par Rogers, mais qui rendait hommage à la fidélité à son pays et à sa fiancée, à sa bonne amie, de ce fameux soldat. Et là, tantôt, c'était Nadia Doty qui nous chantait « Debout les oeufs ». L'enregistrement était de 1940, mais il faisait référence à ces oeufs qui ont, entre autres, participé. C'était des soldats qui venaient d'Afrique du Nord, et qui ont participé également à la guerre de 14-18 dans les tranchées. Il y a des photos qui existent à ce sujet-là, avec leurs fameux pantalons bouffants, etc., etc. Alors, on va apprendre une petite symphonie de Gustav Mahler comme fond sonore. C'est le début de la 7e symphonie pour continuer notre émission spéciale « La musique adoucit les mœurs » consacrée à la Première Guerre mondiale et plus particulièrement à la participation de colonies, etc. à cette guerre. Et parmi les colonies, on l'oublie trop souvent, il y a aussi les Canadiens, les Australiens, etc., même si ces gens-là étaient majoritairement de couleur de peau blanche. Pendant la bataille d'Arras, en avril 1917, quatre divisions canadiennes se voient confier la prise d'une hauteur contrôlée par les Allemands, la crête de Vimy. En quatre jours de combat, les Canadiens s'emparent des positions allemandes et font 4000 prisonniers. Mais le bilan est lourd, 3500 tués et 7000 blessés dans les rangs des soldats à la feuille d'érable. La conquête de la crête de Vimy est devenue un moment fondateur dans la constitution de la nation canadienne. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, 3500 tués, 7000 blessés, alors que le Canada, à l'époque de la Première Guerre mondiale, compte moins de 8 millions d'habitants. Alors, autre pays engagé dans la Première Guerre mondiale, avec des contingents qui ont presque fait le tour du monde pour arriver sur place, il s'agit des Australiens. Les Australiens qui faisaient d'ailleurs front avec les Néo-Zélandais dans ce qu'on a appelé par l'après l'AMZAC. Alors, un des hauts faits de guerre de cette armée australo-néo-zélandaise, c'est la prise de Gallipoli. Et donc, c'est une bataille absolument folle parce que les Australiens, l'armée australienne et l'armée britannique, en fait, mais ces gens venant d'Australie, de Nouvelle-Zélande, se retrouvent à débarquer de bateaux avec comme objectif de prendre une colline. Collines sur lesquelles les troupes ottomanes sont postées avec des mitrailleuses lourdes et évidemment abattent tout ce qui fait mine de bouger. Et par contre, on avait donné très peu de balles aux soldats. L'idée de leur commandant, c'était de prendre la position à la pointe des baïonnettes. des batailles sanglantes, des batailles qui parfois n'apporteront pas grand-chose au niveau des résultats militaires. Et par exemple, si on prend simplement les Dominions et les colonies britanniques, il y aura 250 000 morts parmi les troupes mobilisées donc, dans ces colonies ou ces Dominions. C'est évidemment énorme et ils ont largement payé leur tribut à la Première Guerre mondiale. Quelquefois, on leur a promis leur indépendance pour après la Première Guerre mondiale. On leur refera le même coup lors de la Seconde Guerre mondiale en leur disant « Si vous vous battez bien à nos côtés, eh bien, nous vous donnerons l'indépendance, nous vous donnerons un pays. » C'était la promesse faite, entre autres, par Lawrence à un certain nombre de Bédouins. Et c'est entre autres cela qui, comme ils se sentiront trahis évidemment par après, promettra éventuellement le même terrain à deux personnes différentes. Il y a par exemple le roi Faisal Ben Hussein qui est émir lorsqu'il rencontre Lawrence et il organise la révolte des Arabes contre l'Empire ottoman pour s'emparer d'un vaste territoire de Médine à Damas. Et donc, il reçoit, à un moment donné, le titre de roi de Syrie. Mais très rapidement, ce titre lui sera retiré par les Français et on le nommera roi d'Irak en échange. Comme vous voyez, les bons comptes font les bons amis. Alors, un personnage qui va également se faire connaître... qui va se faire un nom, et ce sera le début de sa reconnaissance pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agit de Mohandas Karamchand Gandhi. Alors Gandhi est surtout connu chez nous comme apôtre de la paix, de la non-violence, etc. etc. En fait, c'est surtout un nationaliste indien. Il est pour l'indépendance de l'Inde et la fin de la colonisation britannique. Dès le début de la guerre, Gandhi, alors en Grande-Bretagne, va inciter ses compatriotes à s'engager dans l'armée du Raj avec la création d'un corps d'ambulanciers indiens. Cette démarche déjà privilégiée lors de la guerre des Bourgs lui permet de ménager ses principes de non-violence puisque les Indiens ne sont pas impliqués dans les combats. Gagner la confiance des Britanniques devrait selon lui permettre de mieux légitimer les demandes d'indépendance du peuple indien. De retour en Inde, il continue à promouvoir la participation des soldats indiens au conflit et en avril 1918, au mépris de ses convictions, il accepte de mener une campagne de recrutement pour le Raj et s'engage à trouver 500 000 combattants, une prise de position qui lui sera évidemment beaucoup reprochée par la suite. Néanmoins, indique Courrier International, la Première Guerre mondiale marque une étape clé vers l'indépendance de l'Inde. Le conflit a favorisé l'éclosion du mouvement de non-violence prôné par Gandhi, entraînant l'irruption du religieux dans la vie politique. Alors, l'article est illustré par des photos qui montrent des troupes indiennes en Mésopotamie, parce qu'il y a même eu des combats là-bas, comme vous le savez sans doute. Alors, trois transitions majeures dans la vie de l'Inde, dans l'histoire de l'Inde. La première, c'est la promesse faite en août 1917 par les Britanniques, alors en pleine guerre, que l'Inde se verrait octroyer une forme de gouvernement responsable, autrement dit le même système d'autogouvernement parlementaire que dans les Dominions blancs, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ce faisant, les Britanniques renoncent au dogme d'une Inde trop arriérée pour être dotée d'un système parlementaire. Deuxième bouleversement, le changement de nature du nationalisme indien avec le déclin du parti du Congrès d'avant-guerre, loyal et déférent à l'égard de la puissance britannique, et profondément modéré, c'est entre guillemets, au profit du mouvement de masse emmené par Gandhi réclamant l'autogouvernance dans un an. Enfin, troisième élément déterminant dont l'impact n'a pas tardé à se faire sentir, l'entrée fracassante du facteur religieux dans la vie politique. Entre 1914 et 1920, l'Inde est pour ainsi dire entrée de plein pied dans le XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, seul un visionnaire aurait pu imaginer l'incroyable campagne de non-violence que Gandhi parviendrait à orchestrer entre 1920 et 1922. Les Britanniques avaient en effet eu l'intelligence d'ouvrir un peu plus leur système de gouvernement aux élites indiennes anglophones en leur offrant une représentation, certes limitée, au sein des instances régionales. Il y a entre autres le parti du Congrès qui était profondément mécontent de ne pas avoir obtenu de gouvernement parlementaire centralisé. Ses dirigeants se refusaient toutefois à en appeler au peuple et considéraient avec horreur tout recours à la désobéissance civile ou pire, à la violence. Du point de vue des générations futures, cette extrême prudence sera vue comme la preuve qu'ils ne soutenaient pas entièrement l'indépendance de l'Inde, qu'ils n'avaient pas assez foi dans la cause nationale. C'est faux. À l'époque, ses dirigeants estimaient que l'Inde devait être libre et unie pour être construite du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Cela impliquait de prendre le contrôle du pouvoir législatif et d'intégrer progressivement des masses populaires au sein de la nation politique. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale et plus particulièrement aux colonies et aux territoires extérieurs des empires britanniques, français et autres.